RMC Running,
Amin Mohamed.
Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Et puis une fois n'est pas coutume, j'ai la chance d'avoir à ma droite la légende Ludovic Pambray. Comment vas-tu Ludovic ?
Salut, bonjour à tous. Et ça va pas trop mal. Écoute, ça récupère doucement de la petite bombée dans Beldon.
C'est clair, t'as eu une belle fête hier pour fêter tes 10 années après ta victoire ici en 2016 sur l'UTMB Mont-Blanc.
Oui, oui, une petite fête intimiste avec 1300 invités, donc c'était assez sympa.
Rien que ça, on reviendra là-dessus. Et puis aujourd'hui, le thème du jour, ce sera sur les jeunes au pouvoir. En tout cas, il y a de plus en plus de jeunes de 25 à 30 ans sur les épreuves de trail et ultra-trail. Et puis avec moi, j'ai donc Luison Coiffé. Comment vas-tu ?
Eh ben, écoute, pas trop mal.
Ça va ?
Ouais, ça va.
Vice-champion du monde de trail long. Et puis à ma gauche également, Tiffaine Basile, 22 ans. Comment vas-tu ?
Ça va bien, ouais. Contente d'être ici.
Et bien nickel, on va débriefer de vos courses respectives et parler un peu de jeunesse avec Ludovic Pommeret. Puis on est parti, attachez vos baskets, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est l'heure de parler au KTMB. Ludovic, j'ai la chance de t'avoir à mes côtés, remplaçant de luxe de Johan Durand, franchement, je suis pas mal.
merci pas pour, mal. Pour l'invitation.
10 années après ta victoire ici à l'OK UTMB Mont-Blanc, 100 miles, on rappelle ta victoire, 50e place à la mi-course et puis une remontée fantastique. Comment tu arrives à justement te remémorer de cette victoire et quel renseignement tu retires de tout ça ?
L'enseignement, il est assez facile. Et puis déjà, en fait, ce que se dire, la course, elle est terminée que quand on a franchi la ligne.
C'est vrai.
Et c'est surtout en fait la persévérance et voilà, d'être en difficulté sur une début de course, ça présage pas forcément de la fin de course. Pas mal d'enseignements et beaucoup de leçons tirées de cette expérience et aussi de tous mes échecs avant ça.
C'est vrai.
Pas mal d'échecs donc.
C'était ton premier finish en 2016 de l'OKA UTMB Mont-Blanc, 10 années après l'avoir tenté pour la première fois.
Ouais, même 12, j'ai fait en 2004 mon premier.
Oui, 12 années.
2004, ça vous parle ou pas ?
Les jeunes.
Je suis né en 2004.
Oh, merci.
Moi, j'avais au moins 5 ans.
Énorme. Et il y a eu un film justement diffusé hier pour raconter un peu ta carrière. Beaucoup d'émotions, j'imagine.
Oui, beaucoup d'émotions aussi, parce qu'il y a la famille. Bon, j'ai une de mes filles qui est enceinte, donc qui n'était pas là. Mais c'est un bon moment, mais ouais, il y a quelques petites larmes qui ont coulé.
Ouais.
Mais, bon, c'est pas des larmes de nostalgie, parce que je suis content de ce que j'ai fait aussi après. Mais c'est de voir aussi tout ce monde et de repenser à ces moments-là.
Revoir ces 1300 personnes justement à cet événement, ça rend aussi la performance palpable. Dans le sens où on se rend compte de l'impact qu'on a eu auprès des gens.
Ouais, c'est pas la performance 2016 en fait, c'est plus sur la longévité en fait qui inspire certaines personnes et pas que mon public, que les vieux. Vous pourrez penser ça, hein, les jeunes, mais pas que les vieux, mais de voir aussi des jeunes qui viennent, qui viennent auprès de moi et qui me disent tu m'inspires quelque part. Et voilà, quand on a une différence de génération comme ça, je trouve ça plutôt satisfaisant et j'en suis plutôt fier, donc c'est plutôt cool.
Cette semaine ici à Chamonix, on a fait un épisode sur la résilience mentale, comment s'accrocher quand les choses deviennent compliquées. J'ai envie de dire que t'es un peu un exemple en la matière.
Ouais, je crois que Luison et Tiffany vont nous parler de leur course et puis du coup on va voir justement ce qui peut-être a pêché un petit peu. Non mais expert en la matière, non mais voilà, je pense qu'on a quand même cette chance, en fait, on va dire, ou le fait d'avoir de l'expérience, d'avoir vécu en fait plus de courses que ce que Luison ou Tiffaine aient pu vivre, et peut-être de placer des niveaux en fait d'acceptance différents, que ce soit en fait dans la douleur, dans le fait que quelque chose se passe mal sur la course, et ça c'est quand même lié à l'expérience. Heureusement que l'expérience vaut quelque chose, quoi.
C'est clair. On va essayer de croiser vos histoires pendant ce podcast justement pour voir à quel point ce qu'a vécu Ludovic peut aussi vous servir, et puis toi aussi carrément, voir comment la jeunesse se passe actuellement.
Voilà. On apprend de tout le monde, enfin que ce soit des jeunes, des plus anciens, donc je suis curieux d'écouter un petit peu leur retour de course, quoi.
Tiffaine Basile, née en 2004, tiens. Comment ça va, 13e de la MCC?
Ouais, j'ai couru sur la MCC lundi. Le départ de la course, c'est plutôt bien passé. Mais j'ai eu des courses, des crampes assez rapidement à partir du 10e kilomètre. Après les balcons de la Forcla, quand ça a commencé à monter en direction du col de Balme. Donc j'attendais qu'une chose, c'était la bascule pour pouvoir dérouler un peu en descente et puis relâcher.
Parce que sur la MCC, ça monte très vite au début.
Ouais, mais ça reste assez long. Ouais. Et en fait, je pense que je me suis progressivement crispée du haut du corps dans la descente et j'ai fini un peu à l'agonie. Arrivé à Mouroc, j'avais le diaphragme bloqué. Plus possible de respirer en courant, donc j'ai fini en randonnée sur les derniers kilomètres. Donc c'est comme ça qu'on apprend.
Ouais. T'étais en tête à Argentière ?
Oui. Et puis derrière.
Ça, c'est... À ce moment-là, quand t'es en tête à Argentière, tout se passait bien. Comment tu te sentais ?
C'était déjà compliqué depuis Mouroc. Okay. Mouroc, en arrivant sur le parking, je me suis dit là ça va être dur. Ouais. Et puis au début j'ai alterné marche-course, mais au final même en trottinant ça me faisait mal, donc j'ai fini qu'en marchant. Mais je pense que le stress y était sûrement un peu pour quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on tire un peu des enseignements pour la suite et essayer de trouver des leviers de progression pour mieux arriver à gérer un peu tout ce stress et cette pression d'avant-course.
On le rappelle, tu es coaché par Adrien Séguré, coach de l'équipe de France. Est-ce que vous avez déjà fait un débriefing et voir comment la suite peut mieux se passer ?
Ouais, on a fait un débriefing le lendemain de la course déjà, histoire de mettre un peu plus les choses au calme déjà essayer de profiter un peu de la forme du moment et remettre rapidement un dossard parce que ça serait dommage de ne pas en profiter. Et puis
sur trail court encore
sur trail court, ouais. Là l'objectif dans les prochaines années c'est de rester sur des formats courts type maratrail, donc se faire plaisir sur des formats courts,
ce qui est déjà pas si court ça au final.
Après c'est relatif en trail.
oui voilà, il y a toujours plus long et plus court, mais et du coup vous avez débriefé aussi sur la raison de crampes en fait.
C'est vrai que je crampe uniquement en course, donc je pense qu'il y a aussi une part de stress qui joue. Tester pourquoi pas le jus de cornichon, j'ai jamais essayé.
Ouais, on a vu quelques trailers qui en faisaient des noms un petit peu connus dans le trail, qui faisaient ça. Après, c'est vrai qu'il faisait chaud sur la MCC, non ? Il faisait pas particulièrement
pas
chaud.
Pas tant que ça, j'ai pas eu l'impression d'avoir souffert tant de la chaleur que ça. Par rapport par exemple au marathon du Mont Blanc, c'était moins compliqué.
Ok, et tu penses que tu étais en sur-régime en fait ? Parce que souvent, on lit pas forcément. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à faire en fait, lié avec l'hydratation, ce qui n'est pas forcément le cas, qui est plutôt en fait une différence de vitesse qu'on peut travailler à l'entraînement et ce qu'on fait en course. Donc, est-ce que sans t'en rendre compte en fait, avec la pression de course, justement, tu étais peut-être en sur-régime ou t'as pas eu d'analyse comme ça du coach ?
Ouais, peut-être aussi. J'ai quand même vu au cardio qu'il était quand même plus haut que d'habitude, donc le stress y a pas mal contribué, je pense. Mais
est-ce que t'as pu bien t'hydrater ? Ça peut jouer sur les crampes.
Pourtant, j'essaie de bien faire attention à l'hydratation, la nutrition. C'est bien passé jusqu'à une bonne partie de la course, donc à voir comment on peut améliorer les choses là-dessus. Ouais.
Ludo, de ton expérience, quand on est deuxième et qu'on se fait dépasser, ça devient dur mentalement. Enfin, comment on arrive à justement retrouver les ressources mentales pour se dire, ok, prochaine étape, prochain ravitaillement, prochaine étape, jusqu'où je peux aller, et puis à la fin réussir à finir la course. Quelles ressources mentales on arrive à trouver ?
C'est une de mes gestions de course très rares en fait, parce que je pars rarement sur le devant de course. Ça arrive en fait, mais c'est quand même peu fréquent. C'est une des raisons aussi de gérer les courses différemment, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de passer du monde et d'être chasseur que d'être le chassé. J'ai pas tant d'expérience en fait sur cette façon de gérer.
Évidemment,
ça m'est déjà arrivé en fait quand même de me faire passer. Et c'est vrai que mentalement c'est difficile. Et ça, j'imagine même avec leur âge en fait. Maintenant, ils arrivent plus préparés que je l'étais à leur âge ou à mes débuts. Et je pense qu'ils font déjà de la préparation mentale. enfin, si je me trompe pas. Non, donc ils doivent déjà avoir en fait quelques leviers ou préparer dans leur tête en fait leur motivation et ce qui va les motiver pour continuer et lâcher le moins possible, parce que au final quand on s'est déjà fait passer, c'est ça le but, c'est de s'accrocher et puis en laisser le moins possible.
Une 13e place au final, même si c'était pas l'objectif espéré, ça reste quand même positif. Est-ce que tu arrives à voir le plus dans cette performance?
Oui, il y a quand même du positif à retenir. Le début de course est très bien passé, donc ça reste quand même une belle expérience et un chouette moment quand même ici, même si j'aurais préféré finir d'une autre manière.
Évidemment, évidemment. Championne de France trail court.
C'est ça.
T'as tout l'avenir devant toi et puis des occasions pour briller, elles se représenteront certainement.
Oui, j'ai encore le temps.
Ça
à 22 ans, ça devrait le faire.
Je fais 28 ans minimum, c'est ça.
Louison, à ma gauche, comment vas-tu? Ça peut aller, j'ai envie de dire.
Ça va.
Né en 1999, aussi très très jeune, et déjà athlète de très haut niveau. Tu as participé à ton épreuve, tu as dû faire la TDS, malheureusement tu n'as pas pu la finir. Et pourtant tu étais bien aussi dans les classements, tu étais devant la course et puis malheureusement tu as dû rentrer au dossard. Qu'est-ce qui s'est passé?
Là c'était pas du tout un problème de forme, de mauvaises sensations ou quoi, en quelque sorte, mais c'est plus la mécanique qui a lâché. En fait avant la course, déjà 10-12 jours avant la course, j'ai commencé à sentir une gêne qui à la hanche, qui s'est un peu majoré et qui m'a empêché de finir ma préparation. Alors c'est pas dans les 10 derniers jours qu'on s'entraîne, donc là-dessus j'étais plutôt serein sur ma forme parce que le job était fait dans l'été et tout ça. Par contre à un moment donné, faut quand même que le corps suive pour courir. Enfin peut-être que Ludo nous dira l'inverse, mais en tout cas voilà, donc j'ai essayé, je savais que j'étais en forme. J'avais envie sur cette TDS, je voulais pas ne pas essayer et ne pas prendre le départ. Donc j'ai pris le départ et puis ça s'est plutôt pas mal passé sur 2-3 heures de course. Et puis en fait, le parcours de la TDS est assez atypique et c'est très roulant au final sur les 50 premiers kilomètres, avec des grandes parties de descente et la hanche n'a pas tenu ces grandes portions-là. Et en fait, ça devenait, à la fin de la descente, j'ai abandonné au 50e kilomètre, mais ça faisait déjà 15 bornes que je savais que ça allait se terminer à Bourg-Saint-Maurice parce que ça devenait même dangereux. J'avais pas de confiance dans ma jambe, des fois ça lâchait un peu, enfin la douleur était exponentielle, donc c'était pas des conditions dans lesquelles je me disais je peux aller sur 100 bornes sans compromettre quoi que ce soit.
Qualité physique, carrément. C'est dur d'arriver sur une ligne de départ sans savoir si on peut vraiment faire confiance à son corps.
Ouais, alors c'est souvent, plus dur. En fait, il y a quand même une période juste avant la course, en fait, qu'on appelle tapering ou affûtage, voilà. Où souvent il y a aussi une part psychologique, en fait, où on se dit, on se trouve des petits mots, en fait. Ça m'est arrivé, en fait, aussi sur ma première hard rock, un mal de genou, et moi, au bout de 4 heures de course, c'était passé. Et ça, c'est plus psychologique. Et ça arrive, en fait, très fréquemment sur ces phases-là. Je pense que pas mal de kinés, en fait, d'équipes, ont ça, en fait, le retour des athlètes en disant, voilà. Et je pense que c'est pas mal lié, en fait, quand même au mental. Donc il y a ça, et puis après il y a vraiment en fait des blessures, et puis après c'est à chacun d'évaluer le risque qu'on prend en continuant avec une blessure. Là Louison il a arrêté, il a certainement bien fait s'il ne se sentait pas aussi en sécurité, surtout qu'il a fait la première partie de la course qui est plus roulante. On va arriver dans des parties qui sont plus techniques, où il y a déjà eu un mort sur la TDS, il y a des endroits où il ne faut pas chuter. Donc il faut faire le balance entre le bénéfice-risque. Est-ce qu'on risque vraiment de mettre sa santé en jeu sur du long terme et prendre la bonne décision? Mais c'est sûr que c'est toujours difficile d'abandonner, de prendre ça comme un échec. Après, que ce soit en trail, en alpinisme, abandonner, c'est aussi se donner une chance de revenir. Des fois, il y a des décisions à prendre. Je fais aussi cette analyse comme ça et je me dis qu'est-ce que je risque en fait à continuer, et soit je décide de supporter la douleur si j'estime qu'il n'y a pas trop de risque, ou
si ça peut s'empirer,
ou d'abandonner. Donc chacun fait ses propres choix. Peut-être que les choix dans une carrière au final ils seront différents parce qu'on aura une base en fait, un référentiel douleur qui va être différent par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, ça fait partie de l'expérience.
Il faut aussi être lucide sur sa condition physique et les douleurs qui peuvent justement s'empirer.
On évolue quand même en montagne, il y a des risques inhérents à ça aussi.
tu étais sur une très belle saison aussi avant ça, vainqueur du 90 km du marathon du Mont-Blanc notamment. Tu prends la tête très vite dans la course, tu as jusqu'à 5 minutes d'avance notamment. C'est ce que j'ai vu au passage au col du Chavannes notamment.
Pardon, je croyais que tu étais sur le 90, excuse-moi.
Non, pas du tout, non, sur cette course-là. Sur cette course, tu as eu jusqu'à 5 minutes d'avance après 25 km. Tu penses que tu es parti un poil vite par rapport à tes sensations du jour ou rien à voir, c'était surtout mécanique?
Non, je pense que c'était surtout mécanique. Après, par contre, là où je me suis rendu compte aussi que ça pouvait pas le faire, c'est que cette gêne à la hanche au départ, puis douleur, en fait, on se rend compte que le corps, il compense comme il peut pour essayer d'avancer quand même, parce qu'on lui demande d'avancer. Et au final, arrivé à Bourg-Saint-Maurice, au-delà de la hanche, j'étais aussi fracassé musculairement parce qu'en fait, on compense comme on peut.
C'est vrai.
Et j'avais l'impression d'avoir fait 150 bornes alors qu'il n'y avait qu'un tiers de course. Donc voilà. Et je pense je crois qu'il y a eu un problème au pointage de Chavannes parce que je pense pas d'avoir 5 minutes d'avance. Et on est parti sur un bon rythme. Après, moi, j'étais pile dans mes temps de passage. Ce qu'on avait prévu pour arriver à Chamonix.
Après, il faut savoir que la TDS, elle est quand même un petit peu piégeuse sur cette course, parce que la première partie, en fait, il y a des descentes qui sont relativement faciles, assez longues, roulantes, et on peut vraiment en fait se cramer musculairement en étant un peu en survitesse sur cette partie. Donc, elle les passe pour une course très technique, mais sur la première moitié, enfin, premier tiers jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, c'est quand même une course qui peut user en fait, musculairement en fait, l'athlète.
Comment tu organises ta saison de manière assez globale? Quels sont tes objectifs, notamment pour la suite?
J'essaye de m'en fixer rarement plus que deux au final, des gros objectifs où je vais être à 100% de mon potentiel. En fonction de ça, des courses préparatoires. Mais je ne suis pas quelqu'un qui court énormément dans la saison. Je préfère vraiment cibler mes objectifs, arriver serein sur la ligne en me disant « Ok, là, j'ai vraiment tout mis en place pour ça. » Et pas plutôt me dire « Allez, je cours et puis si ça passe pas, c'est pas grave, dans deux semaines, j'ai une autre chance. » Je fonctionne plutôt comme ça. Et en plus, j'essaye d'arriver sur le long. Donc la TDS, c'était censé être mon premier 100 miles. C'est pas grave, c'est juste repoussé de quelques mois. Mais du coup, avec cette progression vers le long aussi, je suis bien conscient qu'on peut pas mettre 10 dossards dans l'année, et du coup le choix il est d'autant plus important et réfléchi.
Justement, dans cette transition vers le long, est-ce qu'il y a des choses où tu fais un peu plus attention, notamment le renforcement musculaire? Est-ce que tu as mis en place de nouveaux protocoles?
Ouais, j'ai toujours fait un petit peu de musculation à côté, mais là je suis beaucoup plus assidu là-dessus.
Ouais.
Et je fais pas mal de ski l'hiver, et cette année je me suis rendu compte que sur les transitions c'était beaucoup plus facile. Mais pareil, on parle de la musculation, mais je cours aussi un petit peu plus l'hiver. Et c'est des choix pour essayer d'être plus régulier au final toute l'année. Alors bien sûr qu'il y a des énormes écarts entre une semaine d'été et d'hiver, mais essayer de lisser un tout petit peu plus pour être plus serein sur ces prépas de long. Ouais, je trouve que si on part de zéro,
c'est clair.
Il y a beaucoup de marche à faire, quoi.
Puis t'es accompagné par un équipementier aussi qui te soutient. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une équipe autour de soi qui justement programme une saison, voire une carrière avec toi? Comment vous organisez là-dessus?
Sur les choix de course, globalement, c'est mon choix.
T'es assez libre là-dessus?
Ouais, je suis assez libre là-dessus, et je les en remercie d'ailleurs. évidemment qu'on prend toujours des conseils. Enfin, même moi, ça m'intéresse d'avoir des conseils. Ça reste des spécialistes dans chacun de leurs domaines, des passionnés aussi. Donc je suis pas du tout fermé à ça, mais grosso modo, les courses, c'est moi. Et après, j'ai un entraîneur aussi dont je suis très proche, et on échange beaucoup tout le temps. Et du coup, ça m'aide à co-construire, on va dire, la saison. Et puis après, chacun amène sa petite pierre à l'édifice, quoi. C'est très agréable.
Je t'ai vu plus cette année en ski alpe. Tu vas poursuivre un petit peu ça, en fait. Qu'est-ce que ça t'amène, en fait? Tu trouves un bénéfice, justement, de mixer cette double saison quelque part?
Ouais, des bénéfices, il y en a beaucoup. Moi, je trouve le principal bénéfice, c'est mental. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça permet de couper un petit peu, j'adore venir sur des courses où, en fait, avec 15 gars qui sont niveau compétition pur, qui sont largement au-dessus de toi. Et moi, j'adore ça, redescendre et réapprendre et refaire la base, entre guillemets. Et après, bien sûr, au niveau physique, il y a énormément de gains. Mais je vois aussi les limites. Si je faisais que ça, je pense que la transition serait difficile. Et après, la question aussi se pose, j'ai énormément de courses, je cours très peu en début de saison. Et là, il y a des courses de début de saison qui me font très envie, donc peut-être que je vais devoir rééquilibrer un peu ça. Ouais.
Vous avez eu deux courses très différentes, mais au final, un même sentiment d'amertume. Tiffaine, toi, c'est quoi ton rapport à, entre guillemets, je vais utiliser un grand mot, mais à l'échec? Comment tu arrives à rebondir là-dessus? Quels sont tes moyens mentaux, sportifs pour réussir à rebondir très vite? Moi, par exemple, personnellement, je prends très vite un dossard, assez vite, pour essayer de faire couper l'eau sous le pont et réussir à justement rebondir assez vite.
Visiblement, c'est ce qu'ils ont prévu avec Adrien.
Ouais. c'est exactement ce qu'on a prévu, ouais, de reprendre un dossard assez rapidement pour passer à autre chose et puis profiter.
Vous avez ciblé la course?
Pas encore, c'est en discussion.
Elle hésitait avec l'UTMB, mais ça risque de pas faire.
Ouais, non, c'est clair. Il y a des dossards qui sont libérés. Hein, je pense que...
Et toi?
Moi, déjà c'est de trouver les solutions. Ouais, j'essaie que ce soit rare quand même. Non, mais sinon, moi, mon processus, c'est d'essayer de replanifier la suite le plus rapidement possible. Pas forcément prendre un dossard vite, mais par contre savoir où je vais en fait. C'est-à-dire que là, forcément, l'été était focus sur la TDS et je savais même pas trop ce que j'allais faire après. Bah là, j'ai envie de savoir quoi, que ce soit là l'automne, l'année prochaine.
Ils sont jeunes, ils sont déjà accompagnés par des équipes très professionnelles. À 24, 27 ans pour Luison. Ça, c'est aussi un signe que le trail progresse, se professionnalise et va vers l'avant.
Ah bah ça, on a clairement vu en fait une professionnalisation dans le trail avec, ça va un petit peu de pair en fait, avec la médiatisation qui augmente, le nombre de pratiquants, l'engouement qu'il y a pour le trail et qu'il y a à voir en fait cette semaine à Chamonix. Donc, il y a plus de moyens, donc forcément en fait, il y a plus de professionnels parce qu'il y a. Ne serait-ce que 5 ans en arrière, c'était difficile en fait d'avoir un contrat qui permette de se dire professionnel. Alors quand on est jeune comme ça, on peut se permettre en fait de tenter sa chance en vivotant. Mais voilà, maintenant il y a quand même des contrats qui permettent de dire j'ai pas besoin d'avoir un autre boulot à côté. Je peux essayer de m'investir, tenter surtout quand on a cet âge, qu'on n'a peut-être pas de charge de famille. Enfin, je me prononce peut-être un petit peu, mais donc, c'est sûr qu'on voit l'évolution. On voit aussi la professionnalisation dans les teams. En apportant en fait de plus en plus de clés, de choses qu'on n'a pas eu en fait à nos débuts, de support, que ce soit niveau préparation physique, mentale, nutritionnelle, enfin tout ça a évolué et on voit qu'il y a quand même une claire évolution. Quoi.
En 2004, quand tu cours à l'UTMB, est-ce que tu as déjà une équipe professionnelle ou non, pas du non, tout? Est-ce que tu arrives avec ton sac, tes potes et
J'arrive avec mon sac, une ampoule à filament, ça vous parle ça ou pas? Et puis quelques kilos de trop aussi. Le défi c'était vraiment de faire le tour, d'aller au bout. Donc non, loin d'être dans la performance quand j'attaque en 2004.
On n'avait pas encore les mêmes réflexes de préparation. Enfin. Quand tu dis arriver avec des kilos en trop, c'était parce qu'il fallait faire des réserves, notamment pour...
Non, c'est que j'étais pas préparé pour ça. Moi, j'ai commencé à courir aussi pour pouvoir manger ce que je voulais. Après, quand j'ai commencé à faire un peu des performances, on dit, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges pour courir. Non, ça va pas.
On parle justement de regain de jeunesse dans le trail. Qu'est-ce qui vous attire, vous, dans cette discipline? Il y a un rapport de la FFA qui est sorti, qui parle d'explosion même chez les jeunes de la pratique du trail, Luison.
J'ai pas envie de parler pour tous les jeunes de France. Évidemment, non plus, mais
toi, ouais, puis t'es plus si jeune que ça.
À la base, je pense pour tout pratiquant, jeune ou pas jeune, c'est cette simplicité de pratique, quoi. Et puis, en vérité, c'est une bonne question. Ouais, mais...
Cette connexion avec la nature, c'est souvent le mot qui ressort.
Oui, ça va avec. Oui, pour moi, c'est ça, c'est la simplicité et être dehors, quoi. Un sport outdoor et tous les bénéfices qu'on en retire. J'ai pas mal pratiqué d'autres sports aussi, et pas forcément en intérieur, et que ce soit mentalement ou quoi, c'est... Ouais, il y en a... Enfin, je trouve que... C'est peut-être parce que je suis passionné, mais le trail, c'est facile, quoi. Enfin...
C'est vrai, Tiffaine ?
Ouais, c'est le plaisir de courir dans les grands espaces, dans des endroits qui sont magnifiques comme ici.
Ouais.
Et ouais, c'est juste le plaisir de... C'est des choses simples, en fait, mais qui sont... Qui rendent heureux, simplement.
La pratique.
C'est ça.
Pour ça, tout le monde se rejoint.
Est-ce qu'il n'y a que ça, en fait, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des... Justement, avec cette professionnalisation, en fait, des gens qui veulent s'y mettre pour justement en faire leur métier, ou avoir, je ne sais pas, de la visibilité, d'avoir de la présence sur les réseaux. Est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui attire les jeunes, qui s'y mettent? On voit qu'il y a des jeunes, en fait, des influenceurs, créateurs de contenu, comme vous les appelez, qui motivent, en fait, les jeunes à se bouger. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils se disent, ouais, c'est quand même un sport qui est génial, on va être dehors, on va gambader, ou en fait, je vais peut-être, justement, être connu, parce que, bah, y a des jeunes, en fait, enfin... Le rapport aux réseaux sociaux a quand même changé et ça peut être une motivation.
C'est aussi une manière
légitime ou pas, ça. Après, c'est à voir, mais je sais pas.
Moi, je trouve que ça serait un peu triste pour notre sport, mais enfin, si c'est la première motivation. Après, je pense comme dans tous les sports, je sais pas si c'est pour être connu, mais ou c'est du mimétisme des gens qui suivent. Mm-hmm. Comme on voit un effet dans les autres sports, quand il y a les JO, bah, les inscrits explosent dans les sports où, par exemple, la France a remporté des médailles. Enfin, est-ce qu'ils se disent je veux être le prochain? Ou est-ce que c'est ce qu'on a vu et ce sur quoi on nous a mis le focus, que ce soit les médias, tout ça. Et du coup, bah forcément, on va vers ça. Je sais pas dans quel sens ça fait, mais...
Quelles ont été tes sources d'inspiration, toi, justement?
Moi, à la toute base, c'est mon père.
Ouais.
Qui doit être à peu près de la génération de Ludo.
Oui, moi, j'ai une fille qui a 25. Hein, ouais.
Non, et voilà, à la toute base, c'était ça. Hein. Je l'accompagnais sur les week-ends de course. On plantait la tente. Lui, il prenait le départ à 6h. Nous, on allait l'encourager sur le parcours et... Et des fois, il y avait le bonus de la petite course enfant le dimanche, quoi. Et j'avais 5 ans. Et voilà.
C'est peut-être vous qui aviez planté les graines, justement, du trail et qui avez, justement, provoqué à ces jeunes, moins jeunes, d'avoir cette passion pour ce sport-là, finalement.
Bah oui, j'espère. Enfin, c'est de l'exemple, quand même. Et puis, la discipline est nouvelle, donc forcément, on est aussi un petit peu à l'initiative de ça, de cet engouement. Mais ouais, c'est bien. Enfin, il y a pas mal, en fait, je trouve, de transmission comme ça dans la famille, d'inspiration, ouais, père-fille, mère-fille-fils. Donc c'est plutôt cool, ouais.
Tiffaine, toi, ça t'est venu comment?
Bah, comme Louison, moi, c'est
la famille.
Ma mère qui, pareil, courait beaucoup sur trail, surtout sur les courses locales. Donc on allait souvent la voir les dimanches. Et puis en principe, elle a ramené le panier garni, donc ça donne envie.
Ça performait.
C'est ça.
Ouais, j'imagine donc leur fierté auprès de. Enfin, voilà, j'imagine qu'ils sont toujours derrière vous là, et que ça doit être vraiment. Ils doivent être très fiers de vous avoir en fait transmis ça et de voir où vous en êtes maintenant, quoi.
Aujourd'hui, vous envisagez une carrière complète dans le trail, Luison?
Ouais. Oh bah, on va pas s'en priver. Hein.
Bah, moi, on verra où ça mène, mais j'ai quand même les études à côté. Donc on mène les deux
fronts
en parallèle, et puis on verra où ça mène.
Comment tu gères justement entre les championnats, les courses, les études?
Et ben, pour l'instant ça va, je pense que c'est un équilibre à trouver, et ouais, c'est le juste milieu. C'est sûr que je fais pas la fête, je vais pas aux soirées étudiantes, j'ai pas trop le temps, on va dire, mais...
T'as un emploi du temps aménagé?
Pas du tout. Non.
Vraiment pas?
Non. Donc, y a des périodes qui sont un peu plus chargées que d'autres avec les examens, mais ça se passe bien en général. Donc,
tu fais quelles études?
Je suis en médecine.
Ah oui, costaud. Ah,
t'as choisi un peu long. Ouais. Bon, tu n'étais plus à l'étude, Louison?
Non, moi je finis.
Ça y est. On est parti pour quelques années en plus en médecine.
D'accord, ouais. Ouais.
Une spécialité rêvée, peut-être?
Et ben, médecine trail. Du sport. médecine du sport, ouais, c'est vrai que ça serait
magnifique. Ça fait rêver.
Il y a pas mal de médecins quand même dans le sport au final.
On a reçu.
Il y a des kinés aussi.
Ouais, kinés, il y a beaucoup aussi. T'as fait kiné
On a reçu Anise Rousset justement hier, qui est vétérinaire également. Donc on est à peu près dans la même vibe, j'ai envie de dire. Dernière idée reçue. Avant, on se disait qu'il fallait avoir 35. 40 ans pour pratiquer du trail, et puis là aujourd'hui on a de très très jeunes qui s'y mettent sur trail court, sur trail long. C'est aussi un changement de mentalité qui arrive dans le trail.
Ouais, changement de mentalité, et puis surtout en fait on sait que c'est possible, en fait, même sur du long, voire enfin très long, enfin l'UTMB, ça dépend comment vous le considérez, voilà, avec l'expérience de Kylian. Maintenant, faut juste faire attention, parce qu'il y a des jeunes qui vont commencer à 15 ans, qui se disent bah ouais, mais c'est bon, à 20 ans, je peux faire et je peux gagner l'UTMB. Faut quand même être progressif dans le sport. Et puis, si on prend l'exemple de Kylian, lui, à 20 ans, il avait 15 ans d'expérience. Donc voilà, c'est un petit peu différent, il faut regarder le passé. Mais il n'y a pas d'âge vraiment, c'est plus, on va dire, quand même une certaine expérience qu'il faut avoir. et l'expérience, elle n'est pas forcément liée à l'âge, en fait. Si depuis tout petit, ben voilà, les parents
un peu comme eux,
en montagne et tout ça, ouais. Donc voilà, juste en fait, alors c'est ce que j'ai pas fait, hein, mais c'est ce que je vous conseille, c'est de la progressivité.
L'expérience, c'est le meilleur allié de l'ultra trailer.
Ouais, bah oui, quand même, je pense. Ouais. Enfin, pas le meilleur, mais.
Non, mais en tout cas, l'un des meilleurs atouts.
Ça y contribue. Ouais.
Du coup, faut pas s'arrêter sur une seule contre-perf. Hein. C'est un peu ça le message.
C'est pas le schéma.
C'est pas le schéma. Merci à tous les deux d'être venus en plateau. Merci de nous avoir partagé votre expérience. Et puis, on vous souhaite plein de bonheur et plein de réussite pour l'avenir, notamment en course et en championnat. Puis, il y a peut-être un maillot tricolore à aller porter quelques fois, notamment pour Tiffen. Et.
Et Louison aussi.
Et Louison aussi.
Ouais, ça reviendra.
Ouais. Merci à vous, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube RMC Running. Merci à toi, Ludovic.
Merci à vous.
On te retrouve pour un prochain podcast également.
Ça marche.
Et puis, pour finir, toujours le même conseil. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.